Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Alors, si je me réveille à 7h et que je m'endors maintenant, ça me fait 8h de sommeil. C'est parfait 8h, c'est ce qu'il faut. Et merde. Allez, si je m'endors maintenant, ça me fait 5h de sommeil. C'est pas trop mal 5h. Pourquoi j'arrive pas à dormir là ? Doctissimo, insomnie.
Hey, j'ai un cancer du cerveau ! Hey !
Voilà, paix !
Insomnie, non féminin, état de ce... Bon, si je m'endors maintenant, ça me fait 2 minutes de sommeil, donc je suis mort. Faut que je mette snooze. La technique, c'est de surtout pas s'endormir.
Un extrait du Palma Show. Et oui, le sommeil, c'est un sujet qui nous touche tous. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis devenue parent, j'ai eu la révélation. Il est essentiel pour survivre. Dans Squad 9 Doc, on va tenter de comprendre son fonctionnement pour l'apprivoiser. Benjamin Putois, vous êtes chercheur en sciences cognitives et psychologue clinicien. Vous êtes spécialiste du sommeil et travaillez entre autres au sein de ProSom, l'Association nationale pour la promotion des connaissances sur le sommeil. Le sommeil, c'est un sujet qui nous concerne tous et à tout âge de la vie, il se modifie mais il reste essentiel. Quels seraient les éléments qui permettraient de dire qu'on a un bon sommeil ?
Eh bien, c'est pas tant notre sommeil nocturne sur lequel on doit se baser pour savoir si on dort bien ou pas, parce que c'est normal de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. On a des courts, des longs dormeurs, on a des dormeurs légers, les personnes qui vont se réveiller 2 heures au milieu de la nuit, et puis pour autant, eh bien, ils vont dormir suffisamment. Ce qui compte, c'est pas tant la durée de sommeil que la qualité. Et pour savoir si vous avez bien dormi, bah, regardez comment vous êtes dans la journée. Si vous tournez bien dans la journée, 1 heure, 2 heures après vous êtes levé, et que ça fonctionne pour vous, vous n'avez pas des pics de somnolence, des attaques du sommeil, eh bien on pourrait dire, bah oui, c'est bon, ne vous inquiétez pas, vous dormez bien.
On voit souvent paraître des articles, il faut tant d'heures de sommeil pour un adulte, tant d'heures pour un adolescent. Est-ce qu'il faut se baser là-dessus ? Parce que ça peut être hyper angoissant. Ah, j'ai pas fait mon compte de 8 heures de sommeil, du coup, est-ce que je suis dans la norme ?
Tout à fait, puis on demande, voilà, il faut que je dorme, et si j'ai pas mes 7 heures, et si j'ai pas mes 8 heures, alors ça va être dur, et je tourne dans mon lit, et je cherche le sommeil, et plus je cherche le sommeil, moins je le trouve, et ça commence à dysfonctionner. Donc non, c'est comme si on posait la question, bah, les adultes, ils doivent mesurer combien ? Bah, je vais vous dire, bah, un adulte, je sais pas, ça mesure entre 1m50 et puis 2m10, je sais pas. Eh bien, il y a des gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil, et c'est très bien pour eux, ils fonctionnent très bien. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de 9 heures, 10 heures de sommeil. La moyenne, c'est 7, 8 heures, mais peu importe, ce qui compte, c'est votre durée à vous. Ça, c'est pour les adultes. Chez les enfants, bah, chez les enfants, par contre, c'est important de leur donner beaucoup d'heures de sommeil, parce que c'est là où on consolide la mémoire, les apprentissages, c'est là où les enfants, ils grandissent. Et là, dans la population, la majeure partie des enfants, ils manquent de sommeil. Et ça dépend de l'âge. Voilà.
Alors justement, si on débute sur la toute première étape de la vie, la période des tout-petits, le 0-3 ans, on va dire, cette période, elle n'est pas facile. Hein. Les parents qui nous écoutent, ils le savent. On parle d'éducation au sommeil. On a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Enfin, quand on est parent et qu'on commence à s'inquiéter, on peut voir plein d'infographies sur le rythme de la sieste, le nombre d'heures de sommeil la nuit. C'est quoi les conseils à donner aux parents ?
Ben, les conseils donnés aux parents, c'est déjà l'enfant doit apprendre à dormir. Donc au départ, les premiers mois de vie, c'est important d'être au chevet de son enfant, de l'allaiter la nuit. Et puis à partir de 6 mois, on va commencer à se poser la question avec ton parent, dire bah tiens, je peux apprendre à mon enfant à être autonome. Et c'est bel et bien un apprentissage comme le fait de marcher. Et donc le fait de le laisser pleurer quelques minutes au moment des endormissements, le fait de respecter ses siestes. Et les siestes, elles évoluent très vite jusqu'à l'âge de 3 ans. D'être vraiment à l'écoute de son enfant la nuit, et surtout de lui donner l'autonomie des rendormissements. Et bien c'est un point qui est très très important, parce que quand un enfant ne dort pas à la maison, eh bien c'est très difficile, en particulier pour les mamans.
Aujourd'hui, c'est la mode du cododo. C'est quoi qu'est-ce que vous pensez de l'autonomie de l'enfant et du cododo ? Est-ce que ça peut se jouer en même temps ?
Alors le cododo, c'est le fait de dormir avec son enfant, ce n'est pas du tout recommandé. On dit toujours, il y a des cultures dans lesquelles il y a du cododo. Non, c'est faux. Il y a du room sharing, le fait de partager la chambre. Donc ça, il y a des cultures, c'est vraiment très très implémenté, certes, mais le fait de dormir dans le même lit avec son enfant, ce n'est pas du tout recommandé. D'une part pour mettre une limite entre moi et l'enfant, et puis pour les écrasements, et puis pour les problèmes de respiration, c'est un facteur de risque numéro 1 de la mort subite du nourrisson, avec toutes les conséquences que ça a.
Après 3 ans, le sommeil de l'enfant évolue à nouveau, et là, il est autonome, il peut se lever souvent, il marche, il peut venir embêter les parents. Comment on gère les réveils nocturnes, les « je veux pas aller me coucher », comment on gère ça?
Alors soit à partir de 18 mois, un an et demi, l'enfant va dire « non, je veux pas aller au lit, je veux rester avec toi, papa, maman, je veux une histoire supplémentaire », et puis ça va durer pendant des heures et des heures. C'est un problème de limite qui vient, et c'est important que l'enfant ait des bonnes limites pour qu'il soit bien en sécurité et qu'il soit autonome. Alors c'est sûr que si on n'a pas appris son enfant dès 6 mois à être autonome dans ses endormissements, en le laissant pleurer un minimum, en faisant un sevrage nocturne à partir de 6-9 mois, eh bien ça va faire le lit d'insomnie comportementale de type limite qui pointe à partir de 18 mois et qui plafonne jusqu'à 3 ans et qui peut être terrible pour les parents parce qu'ensuite, eh bien, plus personne ne dort à la maison. Et là, dans ces cas-là, vaut mieux une prise en charge psychologique, oui.
Vous parlez de prise en charge psychologique. Donc, qu'est-ce qui pourrait... Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi on parle de psychologie sur un problème de sommeil?
La plupart du temps, l'insomnie de l'enfant naît d'une mauvaise croyance, une mauvaise interprétation des pleurs nocturne de l'enfant. Les premiers mois de vie, on ne laisse surtout pas pleurer un enfant. N'est-ce pas, 30 secondes, il faut y aller, il faut être à son chevet, c'est extrêmement important pour son équilibre psychique. Ensuite, à partir de 6 mois, eh bien, il y a des enfants, il faut bien discriminer. L'enfant, quand il pleure, il parle. Donc, il donne des informations, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, et laissez-moi tranquille, j'ai envie de dormir, je sors tout l'éveil qui est en moi. Et donc, un enfant qui pleure la nuit ou pour début des siestes, c'est parfaitement normal. Or, il y a beaucoup de mécroyances, et il y a beaucoup, tristement, de dogmes qui traînent sur Internet, sur les réseaux sociaux qui sont véhiculés par des coachs soi-disant spécialisés de sommeil, qui vont véhiculer le fait de manière dogmatique, scléroser le fait qu'il ne faut pas laisser pleurer un enfant la nuit. Or, eh bien, ça dépend de l'enfant, bien sûr, ça dépend de son âge, et c'est important parce que le cycle de sommeil chez l'enfant commence par du sommeil agité. Ça, on le sait sur le plan de l'électrophysiologie du sommeil. Donc, un enfant qui pleure pour s'endormir, c'est parfaitement normal. Si vous allez à son chevet, vous le bercez, très bien, vous débordez d'amour à son attention, mais d'un autre côté, vous êtes efficace pour régler les pleurs nocturnes, mais vous êtes totalement inefficace pour apprendre à votre enfant à être autonome la nuit. Et ensuite, c'est un enfant qui va se réveiller 8 fois, 10 fois par nuit. Ça va durer des années et des années. Je ne vous parle pas de la fatigue que portent les mamans à porter ça à bout de bras et aussi toute la culpabilité qu'elles peuvent avoir alors qu'elles n'y peuvent pour rien, l'enfer étant pavé de bonnes intentions.
Il y a une autre étape qui arrive après, c'est l'adolescence. En général, là, les enfants, ils n'ont plus besoin vraiment de leurs parents, notamment pour faire des grasses matinées et s'endormir plutôt tard. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'on doit les laisser vivre à leur rythme, dormir à leur rythme? C'est un peu ce que vous disiez au début de l'émission. En fait, tant qu'on dort et qu'on dort bien, qu'on ne se sent pas fatigué, finalement, est-ce qu'il faudrait suivre aussi ce rythme-là, se coucher tard, se réveiller tard?
Alors, le grand classique chez l'adolescent, c'est le couche-tard. Il y a un tiers des adolescents qui, naturellement, avec la puberté, les hormones de la puberté, vont retarder le cycle de la mélatonine, l'hormone du temps à l'intérieur de nous, et qui vont les amener à se coucher plus tard. Mais le problème de ça, c'est qu'en semaine, bah, il y a le collège ou le lycée qui fait un couperet le matin, et ce sont des adolescents qui peuvent manquer de sommeil. Qui dit manque de sommeil, dit principalement je suis somnolent, je dors en classe, et donc j'ai des moins bons résultats scolaires. Alors le critère est suivant, c'est que tant que votre adolescent, eh bien, il a des bons résultats scolaires par rapport à son niveau intellectuel, eh bien, il n'y a aucune inquiétude et laissons libre cours à ses grasses matinées le week-end. Par contre, eh bien, si vous voyez qu'il commence à avoir une dégringolade sur le plan des résultats scolaires et un taux d'absentéisme important parce que votre ado il a du mal à sortir du lit le matin en semaine et que c'est quasiment impossible et que ça amène à une déscolarisation dans quand même un dixième des cas, ce qui est pas rare, eh bien là, il y a une sonnette d'alarme à tirer et là, pour le coup, la grasse matinée le week-end, c'est vraiment un mauvais conseil. Mais bon, à partir du moment qu'il y a des scolarisations, il faut une prise en charge aussi.
C'est peut-être aussi le moment où arrivent les angoisses, l'insomnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'insomnie?
Alors l'insomnie, à proprement parler, c'est le fait de ne pas avoir un sommeil suffisamment réparateur qui nous amène à dysfonctionner la journée. Et l'insomnie qu'on dit primaire, c'est le fait d'angoisser par rapport à son sommeil. Donc plus j'angoisse à me dire bah, tiens, je vais pas réussir à dormir, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut que je dorme et j'y arrive pas, je suis dans une période difficile, on perd le sentiment d'un allié puissant qui est le sommeil, et ces inquiétudes et ces angoisses vont alimenter un hyper-éveil qui accentue le phénomène de l'insomnie. Donc souvent l'insomnie, c'est la peur de pas dormir.
Comment on gère ces angoisses? On en a un peu parlé hors antenne. Il y a un individu, une solution. Globalement, quel conseil vous donneriez aux auditeurs de manière globale?
Alors, il y a angoisse et angoisse. S'il y a les problèmes d'angoisse, c'est souvent il y a des problèmes de vie derrière ça, où il y a des vies, des maltraitances, des traumatismes. Donc, tout dépend d'où vient l'angoisse. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. Quand il s'agit de l'angoisse propre par rapport à l'angoisse de ne pas dormir, on va conseiller les personnes justement de ne pas écouter cette insomnie qui devient dictature dans la vie des personnes. Les personnes ne pensent qu'à ça, l'obsession du sommeil. Ils vont prendre des médicaments qui ne sont pas forcément recommandés pour le sommeil, comme les benzodiazépines au long cours. Et on va plutôt leur conseiller de se décentrer leur demande de sommeil, de ne pas rester dans le lit si le sommeil ne vient pas. Et si en moyenne, ils ne dorment que 5-6 heures, eh bien de rester au lit que 5-6 heures. Et ça, ce sont les méthodes qui sont les plus recommandées à l'échelle internationale, qu'on appelle la restriction du sommeil ou le contrôle du stimulus, qui donne des résultats qui sont très, très probants, qui sont quand même difficiles à mettre en place. Oui.
On voit aussi fleurir plein de conseils sur les écrans, plus regarder la télé avant d'aller se coucher, éteindre son portable. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Ce que j'en pense, c'est surtout ce que dit la science. L'exposition aux lumières bleues que diffusent les écrans depuis quelques générations d'écrans, eh bien, amène à un retard de la production de la mélatonine. Donc, on l'observe surtout essentiellement chez les enfants et chez les adolescents, moins chez les adultes. Mais physiologiquement, regarder les écrans, eh bien, ça décale la mélatonine. Mais attention, il y a des personnes qui vont être totalement insensibles à ça. Et le fait de voir des films le soir vont les détendre, ça va les amener vers un ailleurs qui vont les éloigner des problèmes quotidiens et qui vont procéder à éloigner les stress et à favoriser l'endormissement. Donc voilà, il faut faire du sur-mesure en matière de sommeil. Quant aux enfants, là par contre on est strict puisque une minute d'écran, particulier le soir, eh bien c'est une minute de sommeil en moins. Donc chez les petits-enfants et chez les grands-enfants, eh bien c'est pareil, les écrans sont vraiment nocifs pour beaucoup de choses, mais en particulier pour le sommeil.
Vous avez donné une conférence à la MCC la semaine dernière. J'imagine qu'on vous a demandé des conseils pour mieux dormir. Ce serait quoi vos conseils pour bien dormir, passer une bonne nuit?
Ne pas penser au sommeil. Et puis, voilà, quand le sommeil est là, écoutez votre corps et puis allez vous coucher. Méfiez-vous parce qu'il y a la sieste de la soirée qui peut être quand même un faux ami. Attendez votre heure, soyez régulier et puis surtout, vous ne prenez pas la tête. Le sommeil, quoi qu'il advienne, eh bien, il viendra. Même si vous manquez de sommeil pendant plusieurs jours cumulés, il finira toujours par venir. Donc, ne vous inquiétez pas de votre sommeil. Et si vraiment vous souffrez de votre sommeil, allez consulter et les solutions aujourd'hui, elles existent.
Benjamin Pitois, vous êtes chercheur spécialiste du sommeil et le fondateur du projet Dormium, vers lequel je renvoie tous nos auditeurs pour plus d'informations, parce que c'est un site qui est très bien fait, il y a plein de vidéos, c'est hyper didactique. Merci à vous.
Merci beaucoup et bonne nuit.
Dialane Ogier est médecin généraliste. Elle rejoint notre émission avec son édito ce mois-ci. On la retrouvera le mois prochain pour une émission consacrée au Covid long.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sommeil de nos tout-petits. L'enfant n'étant pas un adulte en miniature, ses spécificités sont fascinantes. Vous le verrez, ou l'avez déjà remarqué, le tout petit s'endort, se réveille de nombreuses fois par nuit, en faisant du bruit. Il gazouille, pépille, parfois geigne, souvent même il pleure. Il gigote et se met en mouvement. Ce qui est très différent de notre sommeil à nous les adultes. En fait, 60 à 80% de leur sommeil est dit agité, ou sommeil des rêves, alors que ce n'est que 15% chez l'adulte. Les cycles de sommeil se répètent aussi beaucoup plus rapidement que chez nous, environ toutes les 60 à 90 minutes, ce qui provoque à chaque cycle les mouvements, l'agitation et les microphases de réveil. Tout ça est normal, et surtout tout cela est très bénéfique pour le cerveau du tout petit, qui trie, mémorise et range les informations et perceptions dont ont été faites sa journée, pour les transformer en souvenirs et en apprentissage. Dormir au chevet de son enfant est recommandé les 6 premiers mois de la vie. Mais voici expliquer pourquoi dormir avec son enfant trop près de son lit représente en fait une gêne mutuelle. Car notre sommeil calme et profond est dérangé par le sommeil agité et en mouvement du tout petit. Ces mouvements et ces bruits nous réveillent, et en le stimulant, nous le réveillons à notre tour, alors que la plupart du temps il dort, malgré ce sommeil agité. Voilà le petit conseil que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Prenez le temps. Lorsqu'il bouge, crie ou pleure dans son sommeil, et même s'il a les yeux ouverts, prenez un instant pour l'observer discrètement, pour l'écouter pendant 10, 20 ou 30 secondes. Laissez-le s'agiter, bouger et même pleurer pendant quelques instants. Évidemment, si vous voyez que l'agitation perdure au-delà de 30 secondes et qu'il est vraiment réveillé, alors vous serez tout à son chevet pour intervenir et le rassurer. Mais vous verrez aussi que la plupart du temps, il dort ou se rendort. Alors, laissons-le rêver.
C'est la fin de ce numéro. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.